au chapitre 8 et au verset 21. Chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. » Étonnant de commencer la lecture de l'histoire de Noé au milieu, ou dans ses trois quarts. Pourquoi ? Parce qu'on a annoncé, vous rappelez l'an dernier, à grand fort de publicité, que le 21 décembre 2012, une fois encore, on a prédit la fin du monde. Alors, il y a des gens qui se sont dit, si c'est la fin du monde, il faut que je trouve un moyen d'en sortir. Et alors, il y a un homme, apparemment il n'est pas chrétien, mais quand même, il a des bases. Il s'est dit, il faut que je fabrique un endroit où je serai en sécurité, et où éventuellement je pourrai mettre des gens. Et cet homme a entrepris la fabrication, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, d'une arche gigantesque aux mesures de l'arche de Noé, biblique. Et alors il l'a intitulée l'arche de Johan, puisqu'il s'appelle Johan Hubers, c'est un néerlandais, et il a 60 ans, et il a investi 1 600 000 dollars pour construire, lui seul, cette arche depuis 4 ans. Et alors son idée, actuellement il en a une beaucoup plus petite où il passe dans les ports et il collecte de l'argent pour finir son arche parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Son idée c'est que pendant les Jeux Olympiques, le long de la Tamise, il y ait l'arche de Noé qui soit là pour qu'un maximum puisse pouvoir y aller et ainsi échapper à l'apocalypse. Moi j'ai lu l'histoire et ça m'a fait un peu rire. Mais je me suis dit, il y a des gens aujourd'hui, ils cherchent un autre chemin, une autre voie. C'est pas l'arche qui va sauver, mes amis. Et j'ai vu, il y a 6 endroits hein, dans le monde où on a prévu des abris anti-atomiques, des abris super sécurisés pour ne pas disparaître. Mais si la planète disparaît, mes amis, même si vous avez une arche, même si vous avez un abri anti-atomique, un abri atomique, s'il n'y a rien pour le poser dessus, ça va amener les gens nulle part. Alors, on a le texte. On a ce texte de la Genèse. Et si vous le voulez bien, je crois que je l'avais fait un petit peu il y a quelques années. Je ne sais plus si c'est année, semaine. J'espère que c'est il n'y a pas trop long. Il y a un peu de temps. Je n'ai pas retrouvé trace, en tout cas, de la date. On va regarder à nouveau cette histoire. Pour comprendre, peut-être, se trouver des implications assez intéressantes sur pourquoi et qu'est-ce qu'on peut apprendre de la vie de Noé. Tout d'abord, on va aller dans le chapitre 6. Chapitre 6 du livre de la Bible, Genèse chapitre 6. On voit dans les premiers versets, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On commence à ne plus respecter ce que Dieu a demandé. Et là, on a un verset un peu tranchant. Au verset 3, il est marqué « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Alors là, on se dit « Bah, 120, moi je signe. » Non ? Qui c'est qui signe pour 120 ? ça nous en laisse quelques-unes devant hein, pour la retraite. Mais c'est un peu tranchant parce que le grand-père de Noé, c'est Monsieur Mathusalem. Vous savez, on dit hein, l'expression « vieux comme Mathusalem », 969 ans, Genèse 5, 27. Waouh ! Son père, Melech, a vécu un peu moins loin, il a dû travailler chez Boeing 777 ans. C'était un 777. Et Noé, lui, va vivre 950 950 ans. Alors d'un seul coup, quand on lit le texte et qu'on voit 120, mes amis, c'est impressionnant, non? Et pourquoi ça? Regardez bien, mon esprit ne contestera pas sans cesse. L'homme est toujours en train de contester. Il veut la victoire, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et Dieu dit, ça suffit maintenant. Vous savez, on va voir, aujourd'hui, on va revoir dans ce texte que la grâce de Dieu est là. Que l'amour de Dieu est là. Que la patience de Dieu est là. Mais mes amis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que la patience, elle s'arrête. Elle a des limites. Et que quand on n'arrête pas de contester un jour ou l'autre, hein, même dans le livre des Proverbes, on a lu le livre des Proverbes et le livre de Jacques cette semaine avec les jeunes en Bretagne. Dans le livre des Proverbes, il est marqué qu'un jour, le péché est révélé et qu'on en paye les conséquences. Contestation. Et alors, si vous lisez, on va lire ensemble. Donc là, on est à 120, hein, d'accord? Alors, on va faire un petit saut dans le livre des Psaumes. Et vous connaissez le texte. Et alors, si j'ai bien noté, voilà, 90, verset 9, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 60 et 10 ans. » Et pour les plus robustes, à 80 ans. Waouh, 969 à 80. 10%, hein. 90% de perdu. Est-ce que c'est à cause de notre contestation? L'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. On n'arrête pas de contester et un jour ou l'autre on se dit mais pourquoi il ne nous reste plus que ça? Alors, au verset 5, Dieu fait un constat. Il a fait le premier constat qu'il y avait de la contestation. Verset 5, il dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » Corruption, méchanceté, n'est-ce pas un constat d'aujourd'hui? Est-ce qu'on trouve autour de nous l'amour, la paix, la beauté, la patience? On trouve quoi? La méchanceté, l'agressivité, la rancœur. Est-ce que nous pensons que Dieu est réjoui dans son cœur en regardant la terre? Est-ce qu'il peut se dire « c'est bien, il gère bien l'endroit et les choses que je leur ai données ». Dieu est affligé. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Verset 6, « Il fut affligé dans son cœur ». Dieu a été affligé. Vous vous rendez compte? Celui qui nous a donné tout avec amour, celui qui a pris soin de nous préparer un endroit extraordinaire, finalement, notre façon d'être, notre façon de faire l'afflige. Au point qu'il regrette, il se dit, eh ben, ça valait pas la peine. C'est incroyable qu'on puisse, par notre attitude, notre vie, offusquer Dieu. Cette semaine, j'avais des jeunes avec moi le matin pour faire un culte. Alors, il n'était plus personnel, puisqu'on était sept. Mais pour passer un temps avec Dieu, et à un moment, on a parlé du vol. Et alors, on disait, est-ce que vous croyez que le vol, c'est bien? Ah non, c'est pas bien. Et puis, j'aurais posé la question, est-ce que vous allez sur Internet? Oui. Vous récupérez les films et la musique sur Internet? Oui. Vous savez que c'est interdit? Oui. Et vous continuez à le faire? Oui. On afflige Dieu. On sait que les choses sont interdites, mais on le fait quand même et on se dit, oh, Seigneur, tu sais que j'ai pas l'argent de le payer? C'est pas de ma faute, je le fais. Alors regardez bien, verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Et on va voir après. Ha ! La sentence, on se dit, ça va jamais arriver. Dieu est trop bon. Dieu ne peut pas me punir. Je peux pas être arrêté. On peut pas me retirer mon permis. Je peux pas être mis en garde à vue. Et on continue jusqu'à. Et quand la sentence tombe, alors là, oh non, mais ça, c'est pas juste. C'est pas possible. La fin de toute chose est donnée. Et là, regardez le verset, je vais détruire, verset 14, il parle avec Noé, je vais les détruire avec la terre, fais-toi une arche de bois, je vais détruire. La Bible dit dans le Nouveau Testament, au chapitre 3 du livre de Romains, quoi ? Quelqu'un le connaît ? 3, 23 ? Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la vie ! Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est incroyable de croire, de vouloir faire croire, ou de pousser nos jeunes et ceux qui sont autour de nous, de croire que le péché n'a pas de conséquences. La conséquence du péché, on la voit tout autour de nous. La corruption, on la voit tout autour de nous. La violence, on la voit tout autour de nous. Mais il faut pardonner. Mais faut être gentil, mais faut rien dire. Mes amis, c'est vers la mort spirituelle. Là, on parle même plus de mort physique. On parle d'éternité en enfer. L'enfer existe. C'est la place où va aller Satan et tous ceux qui le suivent. C'est pas la place que Dieu nous a destinée, mes amis, à nous. Il a dit, je vais vous préparer une place à vous. Et si Jésus est mort sur la croix, c'est qu'il ne veut pas. Ce n'est pas sa volonté que nous allions là. La fin, j'ai déterminé, je vais les détruire. C'est la sentence. Oh. On n'aime pas entendre ça, hein, la sentence. Remontons un tout petit peu au verset 8 de ce chapitre 6. Et on trouve, vous savez, quand on parle de la grâce, on parle du Nouveau Testament, souvent. On dit la grâce de Dieu, c'est le Nouveau Testament, hein, l'Ancien Testament, c'est un peu... Et regardez le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, Noé était un homme juste, intègre. Noé marchait avec son Dieu. Qu'est-ce qui faisait que Noé trouvait grâce? C'est qu'il aimait Dieu. C'est qu'il le respectait. C'est que lui n'était pas corrompu. Il méritait la mort aussi. Parce que par nature, il était mauvais. arrière-arrière-petit-fils d'Adam, par Seth. Consolation. Noé a trouvé grâce. Le moyen de trouver grâce, c'est pas de bâtir une arche et de se cacher quand la colère arrive. C'est de marcher avec son Dieu. La recette, elle est là. Il marchait, il a été considéré juste. Abraham a été considéré juste. Par quoi ? Par sa foi. C'est ça qui donne l'espérance. C'est pas l'arche. Si elle est sur la Tamise pendant les Jeux Olympiques, bon, j'espère que les gens feront un beau voyage. Je sais pas s'il fera payer l'entrée. Mais c'est Jésus qui a payé l'entrée de notre arche à nous. Il marchait avec Dieu. Regardez chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu, je t'ai vu, juste. Car je t'ai vu, juste. On a le commentaire au chapitre 6. Chapitre 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici, il était juste, il était intègre. Et puis, le dialogue avec son Dieu. Je t'ai trouvé juste. Ce qui compte, et là je fais petit dérivé par rapport à ce que je préparais ce matin, mais ce qui compte, c'est pas qu'on se croit juste. C'est pas qu'on se croit intègre. C'est pas qu'on se croit bien. Mais c'est que Dieu nous le dise. Je sais que tu es juste. Vous savez, des fois on peut se passer un peu de pommade, se monter un petit peu. Ah, je suis vraiment un gars bien. Hein? Et Dieu dit, humilie-toi un petit peu, mon bonhomme. Dieu dit à Noé, et regardez bien, on a parlé de ça quand on a fait la série sur les dames. Toi et ta maison. Noé n'avait pas juste une influence pour lui tout seul, mais sa famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça va pas venir par hasard. Ça va venir parce que quelque part, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, alors nous influençons notre famille. Alors nous témoignons à nos enfants, alors nous les soutenons, nous leur évitons de faire les erreurs. Noé était juste. Il marchait dans la grâce de Dieu. Et par sa foi, par sa justice, Dieu, lui et sa famille, vont construire pour Dieu, ou vont, on va dire, obéir à Dieu pour accomplir quelque chose de gigantesque. 137 mètres de long, 23 mètres de large, 14 mètres de haut. C'est les tailles de l'arche. Vous imaginez le temps que ça a dû prendre. On n'a pas de notion de temps là. On sait combien de temps il est resté dans l'arche. On ne sait pas combien de temps il a mis pour la construire. Et regardez bien quelque chose d'intéressant. Quand vous allez donner un conseil à quelqu'un, ou quand on lit quelque chose, ou quand on a entendu une façon de faire, qu'est-ce que nous cherchons toujours à faire? C'est à adapter. C'est à modifier. C'est à dire, moi je vais faire mieux, je vais faire plus, ou je vais pas prendre tant de temps. Moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé en relisant ce texte. Chapitre 6, verset 22. Chapitre 7, verset 5. Deux mentions. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Chapitre 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il lui ordonne de construire, il lui donne précisément les matériaux, comment le faire. Il obéit. Il lui dit maintenant, tu prends, voilà, tous les animaux que tu dois prendre, toutes les personnes que tu dois faire. Il accomplit tout à la lettre. La foi, c'est l'obéissance, mes amis. La foi, c'est la soumission. La foi, c'est dire, Seigneur, ce que tu me dis, comme le frère tout à l'heure l'a partagé, c'est ce que tu veux. Mais on n'a pas trop envie. Changer. Mais Seigneur, il y a une autre... Tu sais, je connais un autre truc. On va peut-être fabriquer une arche, on pourrait peut-être fabriquer ceci. Tu sais, on pourrait la faire beaucoup plus petite. Puis tu sais, 3 étages. Non mais attends, Seigneur, on en fait 2. Puis il n'y a pas de fenêtre. Faut faire des fenêtres quand même. Non mais attends, 45 cm le machin pour rentrer. Comment je vais rentrer, moi? Oui, on considère tout ce que Dieu nous dit et on l'interprète, on le change, on le modifie. Moi, ça m'a repris à la lecture en disant, mais c'est vrai que 2 fois, il fit tout comme Dieu l'avait dit. Notre foi se mesure comment, mes amis? Dans le fait que nous faisons les choses comme Dieu le dit. Pas comme nous voulons. Pas comme nous avons l'intention, l'habitude de le faire. Genèse chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Dieu avait dit, ça va pleuvoir. Et mes amis, là, la Bretagne a été largement dépassée. Chapitre 8. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché de la terre, Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. 1 an, 10 jours. À notre échelle, 375 jours. Si je ne me trompe pas, hein. Il y a bien 365 jours dans un an. Donc vous en rajoutez 10, même s'il fait chaud, ça fait quand même 375. Vous imaginez la patience de Noé? La foi de Noé? Fermée dans sa boîte, même si elle était grande, et de se dire, je vais en ressortir du truc. Ça nous arrive d'être dans des tunnels en se demandant s'il va y avoir une sortie. Ça nous arrive d'être dans des moments de notre vie où notre seul espoir, notre seule référence, c'est la foi. C'est la foi. Noé eut foi en Dieu. Il se laisse conduire par Dieu, il obéit à Dieu, il croit Dieu, il fait confiance à Dieu. Et alors que la terre est détruite, ou au moins inondée, que tous les gens de la surface de la terre disparaissent, il attend patiemment que Dieu l'amène, le ramène sur terre à son jour. Alors regardez une autre chose intéressante. Chapitre 8, verset 15. C'est sec, c'est stabilisé, il est dans son arche, là il est en sécurité. Il a passé 365 jours. Faut aller faire les courses maintenant parce qu'il n'y a peut-être plus grand-chose dans le frigo. Alors, Dieu, verset 15, parla à Noé en disant, sors de l'arche. Toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi, fais sortir avec toi les animaux. Voyez, il y a un mot qui est intéressant là. Sors. Quand on est confiné quelque part. Alors, c'est intéressant que des fois, on est en sécurité quelque part et on n'a pas envie de sortir. On se dit, là, au moins là, je vais bien. Et quand il faut sortir, on se dit, c'est moins sûr. Et puis, il y a des gens, ils sont dans une situation catastrophique, ça va pas du tout. Ils se plaignent tous les jours que c'est horrible, que oh là là, et on leur dit, mais attends, j'ai une solution, on sort. Ah non, non. Parce qu'au moins là, je sais où je suis. Pas vrai? Regardez bien. Il y a des gens, hein. Ils sont dans des situations inextricables. On leur dit, sort. Oh, qu'est-ce que t'as à m'offrir? C'est sûr, au moins. Et là, lui dit, sors. Va. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Lazare dans Jean 11? Sors. Mais il n'était pas dans un lieu sécurisé, hein, à Lazare. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples dans Matthieu 28? Allez. Sortez. Sortez dans le monde. Apportez la bonne nouvelle. C'est intéressant, ce mot, sort. Il y a l'idée, voilà, je vous ai construit quelque chose, je vous ai dans ma main, vous avez eu foi en moi maintenant, allez, allez. Et ce qui est intéressant, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'il y a une nouvelle genèse qui arrive. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vie. Ce qui était derrière là est vraiment est terminé. On n'en parle plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, Noé a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Vous avez noté, hein? Tout à la lettre. Et là, Dieu lui dit, allez, va! Et là, Noé, il va pas faire exactement ce que Dieu lui demande. On va pas dire qu'il désobéit, mais il va faire quelque chose que Dieu lui a pas demandé. Vous dites, qu'est-ce qui va nous sortir? Chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures de tous les oiseaux purs et l'offrit des holocaustes à l'Éternel. C'est bizarre, non? Est-ce que vous croyez que c'est bizarre? Dieu fait un... Noé sort, il a reçu une mission, on lui dit, allez, vas-y. Il dit, attends, avant de partir, moi, j'aimerais te rendre grâce. Avant de partir, en mission, de faire tout ce que tu me demandes, moi, je voudrais t'honorer. Je voudrais te glorifier, parce que tu m'as gardé. Alors, c'est pas de la désobéissance, hein. Mais c'est intéressant, Dieu lui a pas dit, bon, en sortant, t'oublies pas de me rendre grâce. Vous savez, quand on a nos enfants petits, hein, et des fois un peu plus grands, qu'est-ce qu'on dit quand on leur donne quelque chose?
Merci.
Ben moi, des fois, je pense que Dieu, il est un peu comme ça avec nous, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Et là, moi, j'ai trouvé extraordinaire, voilà, Noé, il sort, et en plus, il prend des animaux, là, que Dieu avait mis à part. Des animaux purs, que Dieu lui avait fait mettre à part, conserver. Il était le conservateur du musée, là. Et il dit, je t'en donne, j'en ai besoin, t'en as besoin, mais je te les offre en sacrifice. Waouh! C'est intéressant de regarder ce que Noé a fait, non? De se dire, des fois, on est tellement pressé par la tâche que Dieu nous a donnée que, wouh! On a oublié. On a oublié de rendre grâce à Dieu. On a oublié de lui dire merci. On a oublié de nous-mêmes de se nourrir de la bonne nourriture. On a oublié de l'écouter. Et là, hein, il obéit à Dieu. Et le verset 21, on l'a lu ensemble. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus. Dieu a agréé son offrande. Dieu lui a rendu. Notre vie, des fois, on offre des choses à l'Éternel qui ne sont pas des choses agréables. On fait des choses, mes amis, frères et sœurs, où quand Dieu respire, il dit, ouf, vous avez laissé trop cuire ou quoi? Cette semaine, il y avait beaucoup d'activités qui se passaient pas loin de la cuisine. Et alors, vous savez, quand il arrive la fin d'après-midi, que l'estomac, il commence à faire, et si tu me remplissais? et qu'à chaque fois qu'on pense devant la cuisine, on fait... Alors moi, cette semaine, il m'est arrivé un truc, c'est que vendredi après-midi, j'ai passé pas mon temps autour de la cuisine à guetter qu'est-ce qu'elle allait en sortir, mais tous mes rendez-vous, ils se passaient vers la cuisine. Et en fait, je suis parti avant que ça soit servi. Et j'ai jamais su ce qu'ils avaient mangé. Mais bon, Dieu m'a nourri quand même. Dieu a senti une bonne odeur. Moi, je nous pose une question, est-ce que nos vies respirent la bonne odeur pour Dieu ? Est-ce que nos paroles sont des paroles de bonne odeur ? Ou est-ce que simplement nous offrons à Dieu ce qui nous reste, ce qu'on aurait pu éventuellement jeter, mettre à la décharge ? Dieu décide. Dieu est satisfait. Et regardez bien, plus de malédiction. Par un seul homme, le péché est rentré. Par un seul homme, la grâce est rentrée, Jésus. Là, on pourrait rajouter un texte. Par un seul homme, la malédiction a été arrêtée. Par l'obéissance, la foi, la grâce, vous imaginez ce que Dieu peut faire avec chacun d'entre nous, dans nos familles, dans notre quartier, dans nos villes. Permettre que la malédiction s'arrête, que la bénédiction repose sur nos familles, sur nos enfants, sur nos proches, sur nos collègues, sur ceux qui nous entourent, juste par notre attitude. Ah ! C'est une façon de voir le texte, hein ? À la place de la malédiction, bénédiction. Chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé, ses fils, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous pouvons remplir la terre de chrétiens, mes amis. Pas de manière biologique, mais de manière spirituelle. En obéissant à Dieu, en ayant foi. En faisant tout ce que Dieu nous demande de faire. Regardez bien, verset 9. « Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité, avec vos enfants, avec votre famille, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux de la terre que le bétail, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée. » Par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est ici le signe de l'alliance. Et Dieu va donner le signe de l'alliance. L'arche. L'arche. Et regardez, c'est intéressant. Je me suis posé la question et je ne vais offenser personne en me disant, mais est-ce que Dieu serait capable d'oublier ? Regardez bien. L'arche sera dans la nue et je regarderai pour me souvenir. On imagine notre Dieu.
Tiens, ça sert à quoi le truc? Pourquoi j'ai fait ça déjà? Alors, c'était quoi la procédure?
Notre Dieu n'oublie pas. Mais il veut nous rassurer en fait, en disant, je n'oublierai jamais la décision que j'ai prise. C'est une alliance ferme et définitive pour tous les temps, jusqu'à la destruction. N'est-il pas extraordinaire de savoir que nous avons à notre portée, pour nous, un Dieu qui est prêt à renoncer, qui, par amour, a renoncé à nous faire mourir. Qui, par amour, a décidé de nous envoyer, si nous l'acceptions, là où le diable ne voulait pas qu'on aille, mais où que Dieu voulait aller. Mes amis, c'est pas l'arche qui sauve. L'arche a été l'outil, l'instrument que Dieu a saisi pour mettre à part 8 personnes pour qu'elle repeuple la terre. 8 personnes qui, par par la grâce de Dieu, ont été sauvés. Mais aujourd'hui, l'arche de Noé est bâtie par notre... Si vous allez en vacances à Dordrecht, vous la verrez. Hein. Elle est hackée là-bas. Mais moi, j'ai trouvé un autre petit texte. Et j'aimerais bien nous le lire, parce que quelque part, nous sommes dans l'arche de Dieu. Même si nous sommes sur cette terre, même si nous attendons d'être dans cette maison magnifique, dans cet endroit magnifique, dans ce parvis avec Dieu, nous avons eu accès à l'arche de Dieu, par Jésus-Christ. Nous avons pu y rentrer, pas à cause de nos bonnes œuvres, pas parce que nous étions bien, mais parce que nous avons accepté l'alliance que Dieu avait décidé de faire avec nous. Et j'ai trouvé ce petit texte, il est un petit peu amusant, mais écoutez bien. Ça s'appelle « Les outils du menuisier ». Et j'ai trouvé intéressant que Dieu m'ait donné ça, parce que je cherchais une illustration pour le message, j'avais préparé tout le message, et d'un seul coup, un ami m'écrit, il me dit « Tiens, j'ai eu ce texte, j'ai trouvé intéressant ». Et c'était celui qu'il nous fallait pour ce matin. Donc Dieu fait de l'informatique aussi. Un menuisier avait un bel atelier où il exerçait son métier avec amour. Un jour, en l'absence du patron, les ouvriers se réunirent en grand conseil. La séance fut longue et animée, même parfois véhémente. Il s'agissait d'exclure les honorables assemblées à un certain nombre de membres. Donc ce sont les outils qui se rassemblent. Hein. L'un d'eux prend la parole et dit « Nous devons expulser notre sœur Lassie, parce qu'elle déchiquette tout ce qu'elle fait et elle grince des dents. Elle a du caractère le plus mordant de toute la terre. » Alors un autre intervient en disant « Nous ne pouvons pas garder parmi nous le frère Rabot. Il a un caractère coupant, tatillon, au point d'éplucher tout ce qu'il touche. » Frère Marteau, protesta un autre outil, a un sale caractère, lourdeau, violent, c'est un vrai cogneur. Sa façon de battre sans cesse jusqu'à taper sur les nerfs de tout le monde est plus que choquante. Chassons-le. Et les clous, peut-on vivre avec des gens piquants? Qu'ils s'en aillent tous, sans parler de la lime, de la râpe. Leur compagnie est cause de continuelles frictions. Chassons aussi le papier de verre. Il me semble exister que pour égratigner son prochain. Ainsi débattaient avec la plus grande animosité tous les outils du menuisier. Ils parlaient tous en même temps. Le marteau voulait expulser la lime, le rabot à leur tour voulait se débarrasser des clous, et ainsi de suite. À la fin de la séance, tout le monde avait exclu tout le monde. La réunion fut brusquement interrompue à l'arrivée du menuisier. Tous les outils se turent quand ils virent rapprocher de son établi. L'homme prit une planche, la scia avec la scie mordante, il la rabota avec le rabot qui pèle tout ce qu'il touche. Sœur la hache qui blesse cruellement, sœur la râpe à la langue rugueuse, frère papier de verre qui gratte les égratignures. Tous entrèrent en action l'un après l'autre, l'un avec l'autre. Le menuisier prit ensuite les frères clous au caractère piquant ainsi que le marteau qui frappe et percute. Il se rendit de tous les outils avec tous leurs défauts, leur caractère insupportable, et grâce à eux tous, il fabriqua un bateau qui allait permettre de mener à bon port des gens éloignés les uns des autres par un océan de préjugés. C'est pas biblique, hein, mais c'est intéressant. Des gens éloignés par un océan, un océan de préjugés. Voudrons-nous exclure? Dieu, dans sa grâce, mes amis, nous a tous pris avec nos caractères, nos compétences et nos incompétences, avec nos dons et nos défauts, pour amener un peu plus loin ceux qui sont autour de nous. Dieu a fait une alliance avec nous. Romains chapitre 12 nous rappelle un principe. Ça sera le principe de la journée, le point d'orgue du message. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que notre vie donne une odeur agréable à notre Dieu? Est-ce que comme Noé, nous avons confiance que Dieu va nous donner la victoire et que Dieu nous regarde comme des gens justes? Est-ce que ce matin il pourrait nous dire ou me dire à moi, Jean-Claude, tu es juste? Peut-être certains le pensent, peut-être certains le pensent pas. Mais c'est le seul moyen de rentrer dans l'arche. C'est le seul moyen d'être avec Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour Noé et pour l'exemple qu'il nous laisse. Seigneur, tu l'as vu juste. Il marchait avec toi. Il a eu foi en toi. Et le texte nous a rappelé ce matin qu'il a trouvé grâce en toi. Alors Père Céleste, nous ne sommes pas meilleurs que Noé, certainement même moins bons. Mais notre cœur, notre désir, c'est de marcher avec toi. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as donné ton esprit. Et Seigneur, parfois c'est tellement difficile de suivre ce que tu veux nous dire. C'est parfois tellement difficile d'avoir la foi d'aller jusqu'au bout. C'est parfois tellement difficile d'avoir confiance que après la pluie vient le beau temps. Alors Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin. Non pas pour que tu construises une nouvelle arche. Tu es en train de nous préparer quelque chose de bien mieux que l'arche. Mais Seigneur, afin que si ce matin il y a des amis, des frères, des sœurs qui se sentent exclus, qui peut-être ne seraient pas choisis par toi, eh bien Seigneur, que tu leur permettes de s'humilier devant toi et qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Seigneur, nous ne voulons pas être orgueilleux. Si nous sommes admis, c'est par ta grâce, c'est par ton amour, c'est par ta miséricorde. Mais notre souhait, Seigneur, ici à l'église du Phare, comme dans beaucoup d'autres églises, c'est que tout le monde rentre. C'est que chaque personne qui fréquente cette église puisse être sauvée. Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux qu'il juste, qu'il se repente. Alors ce matin, vous dites peut-être, si je me regarde, si je m'examine, c'est vrai que je ne suis pas juste. C'est vrai que je ne serai pas sûr aujourd'hui de rentrer dans l'arche, d'être choisi. Et ce matin, je veux bien m'humilier devant Dieu. Je veux bien lui demander pardon. Je veux bien accepter l'offre, rentrer dans son alliance. Si c'est le cas, tout simplement là où vous êtes, comme on le fait chaque dimanche, Vous dites à Dieu, Seigneur, ce matin je souhaite devenir juste par ta grâce. Et on ne devient juste que par sa grâce. Seigneur, je veux abandonner mes mauvaises voies. Seigneur, je veux être sûr d'être avec toi. S'il y a quelqu'un, quelqu'une, un jeune, un moins jeune, qui ce matin n'est pas sûr de ces choses, simplement là où vous êtes, vous levez la main, vous me dites oui Jean-Claude, c'est mon désir. C'est ce que je veux. Je veux être sûr. Y a-t-il quelqu'un? Ce matin, vous êtes tous sûrs. Votre état, oui. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Qui aimerait, oui. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent vers toi. Seigneur, ce sont des personnes qui peut-être manquent de sécurité, dont peut-être la vie a besoin d'être rectifiée, qui n'ont peut-être pas encore compris toute ta grâce, tout ton amour. Seigneur, ce matin, tu viens à leur secours. Ce matin, comme avec Noé, Seigneur, tu entreprends un dialogue avec eux. Et Seigneur, tu les conduis jusqu'à toi, pour que ils puissent quitter cette salle avec la sécurité que ce sont tes enfants et qu'ils sont avec toi pour l'éternité. Sois béni, Seigneur, pour ta parole et pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse.